on est reparti. Souviens-toi des vrais quand ils seront partis. Pas de ciné. Bonjour le monde aujourd'hui, Eric Manilakiza avec vous sur VOA Afrique. Bienvenue dans cette édition du vendredi 12 avril 2024. Voici d'abord les principaux titres. Au Mali, les autorités interdisent aux médias de couvrir des partis politiques après avoir suspendu leurs activités.
Au-delà de cet aspect, je crois que les partis aussi sont dans leur plein droit de vouloir engager une discussion politique pour éventuellement se retrouver avec la transition pour fixer un calendrier.
Arrivée à Niamey d'instructeurs et de matériel militaire russe. À Abidjan, le président de transition du Gabon plaide pour une levée des sanctions de l'Union africaine. Des organisations demandent aux États-Unis un statut temporaire de protection pour les migrants congolais.
C'est un programme qui donne accès aux ressortissants des pays comme le nôtre, accès pour qu'ils ne soient pas déportés.
Washington appelle à aider les pays en développement à financer leurs investissements. N'en manque pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Mali, la haute autorité de la communication a interdit aux médias de couvrir les activités des partis politiques après la suspension jusqu'à nouvel ordre des activités de ces derniers par les militaires au pouvoir qui les accusent de subversion. Yacouba Ouedraogo.
Dans un communiqué, la haute autorité de la communication a invité tous les médias, radio, télé, journaux écrits en ligne à arrêter toute diffusion et publication des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. La maison de la presse a rejeté dans un communiqué les injonctions estimant que cette interdiction n'est basée sur aucun fondement juridique. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme s'est dit profondément préoccupé par la suspension des activités des partis politiques, ajoutant que ce décret doit être immédiatement abrogé. Plusieurs partis et organisations de la société civile se sont émus dans une déclaration commune le 31 mars du vide juridique et institutionnel laissé après le 26 mars et ont réclamé des militaires la tenue de la présidentielle dans les meilleurs délais.
Des instructeurs russes sont arrivés mercredi à Niamey qui a également réceptionné sa première livraison de matériel militaire russe dans le cadre de la nouvelle coopération sécuritaire entre Niamey et Moscou, a annoncé hier soir la télévision nigérienne. Cette coopération sécuritaire comprendra l'installation d'un système de défense anti-aérien pour contrôler l'espace aérien nigérien avec une formation assurée par les instructeurs russes aux militaires locaux. Le président de transition du Gabon, le général Brice Oligui Nguema, a plaidé hier jeudi lors de son audience à la présidence à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour une levée des sanctions imposées par l'Union africaine à son pays. Claire Morin-Gibourg.
Les deux présidents ont fait une déclaration commune à l'issue de leur entretien. Le général Nguema a déclaré avoir présenté les avancées du dialogue actuel à Libreville et a sollicité l'appui du président Ouattara pour lever les sanctions de l'Union africaine qui pèse sur son pays. « Je sais compter sur vous », a-t-il ajouté en s'adressant au président ivoirien, le remerciant pour son implication et sa volonté constante de soutenir et d'accompagner le processus de transition en terre gabonaise. Pour sa part, Alassane Ouattara a évoqué des échanges fructueux et salué les efforts déployés pour retourner à la normalité constitutionnelle, félicitant le général gabonais pour la convocation du dialogue national inclusif. Début avril, le général Oligui Nguema a lancé un dialogue national inclusif en promettant à nouveau qu'il était censé préparer des élections libres et transparentes en 2025.
Des violences nocturnes ensanglantes et Goma en RDC où le décompte des morts est devenu quotidien. Des témoins accusent des militaires et des miliciens de semer l'insécurité tandis que la garde républicaine est pointée du doigt pour des actes criminels. Le président Tshisekedi qualifie ces milices de citoyens lambda mais la population craint pour sa sécurité alors que les violences s'intensifient. Les États-Unis ont dénoncé jeudi le silence de la communauté internationale face à la grave situation au Soudan, appelant à une reprise rapide des pourparlers, alors que le pays est plongé dans une crise marquée par la famine, les déplacements massifs, les violences sexuelles et ethniques, avec des millions de déplacés et d'exilés depuis le début du conflit. Les États-Unis ont appelé jeudi la communauté internationale à prendre des mesures décisives pour aider les pays à faible moyen revenu à financer leurs investissements en développement durable malgré leur endettement élevé, en permettant un accès accru aux flux financiers mondiaux.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans un avertissement clairement destiné à Pékin, le président Joe Biden s'est engagé jeudi à défendre les Philippines en cas d'attaque à mer de Chine méridionale. Lors d'un sommet inédit avec les dirigeants japonais et philippins, le président américain a déclaré que toute attaque contre un avion, un navire ou les forces armées philippines en mer de Chine méridionale déclencherait la mise en œuvre du traité de défense mutuelle qui Washington et Manille. Pour la première fois dans l'histoire, un ancien président des États-Unis est attendu lundi sur le banc des prévenus où il risque une peine de prison. Le procès commence à 13h30 GMT dans un tribunal de Manhattan à New York avec la sélection du jury chargé de déterminer si Donald Trump est coupable de falsification de documents comptables de son groupe immobilier Trump Organization, visant selon l'accusation de dissimuler le versement de $130,000 dans la dernière ligne droite de la campagne présidentielle de 2016 à une ancienne star de film X, Stormy Daniels, pour qu'elle taise une relation sexuelle survenue 10 ans plus tôt avec Donald Trump que ce dernier dément. Les États-Unis ont annoncé jeudi restreindre les mouvements de leur personnel diplomatique en Israël par souci de sécurité sur fond de crainte de représailles iraniennes à une frappe imputée à Israël en Syrie. Les employés de l'administration américaine et les membres de leur famille ne sont pas autorisés à voyager en dehors des zones de Tel Aviv, Jérusalem et Beersheba jusqu'à nouvel ordre. Plus de 250 organisations humanitaires et de défense des droits de l'homme ont signé une lettre ouverte appelant à un arrêt immédiat des transferts d'armes vers Israël et les groupes armés palestiniens. Elles exigent un cessez-le-feu immédiat et exhortent tous les États à cesser de fournir des armes susceptibles de violer le droit international humanitaire et les droits de l'homme. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit assumer sa responsabilité de maintenir la paix mondiale et la sécurité en adoptant des mesures pour arrêter le transfert d'armes au gouvernement d'Israël et aux groupes armés palestiniens, conclut la lettre ouverte. L'ONU tire la sonnette d'alarme. Les stocks alimentaires de son programme mondial risquent d'être épuisés d'ici à la fin d'avril en Haïti, où l'aéroport international est fermé depuis un mois. Jacques Aristide.
Le PAM accélère son aide alimentaire dans le pays, mais prévient que ses stocks risquent d'être épuisés d'ici la fin du mois, a déclaré hier le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, avant d'ajouter que le programme alimentaire mondial a encore en Haïti de quoi nourrir 175 000 personnes pendant un mois. La fermeture du principal port et du principal aéroport il y a un mois a bien sûr perturbé l'arrivée de l'aide dans le pays, a indiqué Stéphane Dujarric, notant d'autre part que le plan de réponse humanitaire de l'ONU pour Haïti pour 2024, chiffré à 674 millions de dollars, n'est financé qu'à 7%. Sous la pression de puissants gangs haïtiens qui contrôlent aujourd'hui une grande partie de la capitale Port-au-Prince, le premier ministre Ariel Henry a démissionné il y a un mois pour laisser la place à un conseil de transition. Mais la formation de cet organe n'a toujours pas été finalisée. La violence des gangs perturbe l'accès à la santé pour les Haïtiens à Port-au-Prince, a encore dit Stéphane Dujarric. D'après lui, l'hôpital de la paix, encore en mesure de fonctionner pour l'heure, est débordé et les ambulances ont des difficultés à accéder aux zones contrôlées par les gangs.
La multiplication des canicules combinée à des submersions marines menace les littoraux, alerte une étude réalisée par des chercheurs de Hong Kong. Le texte publié hier jeudi promeut l'adaptation des populations côtières face à cette menace. Alexandrine Rologne.
Des chercheurs de l'Université Polytechnique de Hong Kong ont constaté que les chaleurs extrêmes et la montée du niveau des mers se cumulent et que la fréquence des vagues submersion en pleine canicule pourrait être multipliée par 5 d'ici au milieu du siècle. D'ici à 2049, prévoit l'étude, ces événements augmenteront en moyenne de 31 jours par an si l'humanité poursuit sans relâche ses émissions actuelles de gaz à effet de serre à l'origine du réchauffement climatique. L'Afrique et la côte est de l'Amérique du Sud connaîtraient les augmentations les plus importantes, selon les auteurs. Si nous prenons des mesures urgentes pour atténuer le changement climatique, la situation s'améliorera, estime Shuo Wang, co-auteur de l'étude. Les gouvernements doivent donc déjà investir dans l'adaptation des infrastructures côtières afin de mieux protéger les populations et dans des systèmes d'alerte précoces, recommande M. Wang.
Le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'est entretenu par téléphone avec ses homologues chinois, turcs et saoudiens, les appelant à faire pression sur l'Iran contre toute attaque visant Israël, a indiqué hier le département d'État. Personne n'a intérêt à une escalade dans la région et tous les pays devraient inciter l'Iran à ne pas entreprendre une escalade. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, nous retrouvons ce matin Claire Morin-Gibourg qui nous présente sa Minute Éco.
Bénin Terminal, en partenariat avec un consortium de banques, a annoncé un accord de financement historique. Un total de 50 milliards de francs CFA a été sécurisé pour financer l'extension et la modernisation du terminal à conteneurs du port de Cotonou. Le terminal va doubler sa capacité pour atteindre 1 million de conteneurs EVP. Financial Afrique estime que 600 emplois devraient être créés pendant la phase de construction. Les candidatures pour le programme Leadership for Africa sont ouvertes. Financée par le gouvernement allemand, cette formation veut aider à l'émergence de leaders qui contribueront au développement de leurs pays respectifs. Seuls les titulaires d'une licence peuvent postuler. Les étudiants doivent être originaires et résidents au Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, Mauritanie ou avoir un statut de réfugié dans ces pays. Les contrats à terme sur le cacao à Londres et à New York ont atteint des niveaux records hier. La pénurie de l'offre alimente la hausse incessante du marché. Les mauvaises récoltes en Côte d'Ivoire et au Ghana pour la saison 2023-2024 ont conduit à une pénurie d'approvisionnement.
Nous recevons maintenant Yacouba Ouédraogo dans sa page des sports. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Début hier de la 7e édition de la CAN de futsal au Maroc.
Oui, la Zambie a marqué son retour dans cette compétition par une victoire 5-2 face au Ghana lors du match d'ouverture à Rabat. La compétition a lieu du 11 au 21 avril dans les salles Omnisports Moulay Abdallah et Ibn Yassine à Rabat. 8 équipes ont été réparties dans 2 groupes. Le pays hôte, le Maroc, partage la poule A avec l'Angola, la Zambie et le Ghana. Dans la poule B, on retrouve l'Égypte, recordman de la compétition avec 3 titres, la Libye, la Namibie et la Mauritanie, ces 2 dernières équipes découvrant cette CAN de futsal. Les 2 premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales. Les finalistes et l'équipe classée 3e vont représenter l'Afrique à la Coupe du Monde de futsal prévue en Ouzbékistan du 14 septembre au 6 octobre prochain.
Le président de la FIFA reconnaît des problèmes de racisme dans le football.
Nous devons être unis pour combattre le racisme. Vinicius, l'attaquant brésilien du Real Madrid, et d'autres en souffrent. Ces attaques qui les visent n'ont aucune raison d'être. Nous devons être unis contre la violence qui existe dans le monde, a déclaré le patron de la FIFA lors du congrès de la Confédération sud-américaine de football au Paraguay. Il nous faut agir ensemble avec les gouvernements, les équipes, les joueurs. Aller à un match doit être une fête, a poursuivi M. Infantino, qui s'exprimait devant les présidents uruguayens et paraguayens, mais à l'absence de leur homologue argentin. Ces 3 pays vont accueillir les rencontres inaugurales du Mondial 2030, avant que la suite de la compétition ne se déroule en Espagne, au Portugal et au Maroc. Plusieurs rencontres de football, notamment en Europe, ont été perturbées ces dernières semaines par des incidents racistes en tribune qui ont parfois contraint les arbitres à interrompre les matchs.
Enfin, la Première Ligue va introduire une technologie de détection du hors-jeu semi-automatique.
C'est ce qu'ont décidé les actionnaires des clubs de première division anglaise. La technologie permettra un placement plus rapide et cohérent de la ligne de hors-jeu virtuelle basée sur le suivi visuel des joueurs et produira des graphiques de diffusion de haute qualité afin d'améliorer l'expérience des supporters dans le stade et lors des retransmissions, indique un communiqué de la Première Ligue. Ce système devrait réduire d'environ 30 secondes la durée moyenne d'une vérification de hors-jeu par la VAR. Cette technologie du hors-jeu semi-automatisé a été utilisée par la FIFA lors du Mondial 2022 au Qatar. Elle est également utilisée en Ligue des champions et en Serie A italienne.
C'était la page des sports signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manilakidza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Sous l'égide de African Communities Together et de leaders de la communauté congolaise aux États-Unis, 160 organisations ont appelé les autorités américaines à accorder un statut temporaire de protection, TPS, aux migrants en situation irrégulière venant de la République démocratique du Congo. Ce statut devrait éviter le rapatriement forcé de ces ressortissants compte tenu de la situation de guerre et de catastrophe dans leur pays d'origine. Eddie Isango a joint ici à Washington le président de la communauté congolaise aux États-Unis, Claude Kamana.
Nous sommes en train de demander à l'administration de Biden qu'on nous octroie ce programme qu'on appelle TPS. Il s'agit d'un statut qu'on octroie aux ressortissants des pays qui ont des problèmes pour rentrer chez eux, comme chez nous. Il y a la guerre qui tous nous connaissons depuis presque une trentaine d'années dans l'est de notre pays. C'est un programme qui donne accès aux ressortissants des pays comme le nôtre, accès pour qu'ils ne soient pas déportés. Il y a tellement trop de bénéfices que si on vous donne ces statuts-là. Nous cherchons ces statuts-là des TPS, Temporary Protective Status.
Et mais c'est aussi accompagné d'une autre demande de l'assistance pour les étudiants, je crois.
Absolument. La plupart de nos étudiants, ils ont difficilement à trouver du travail. Une fois qu'on octroie ces statuts-là, ils auront accès à appliquer pour le Work Permit. La plupart de nos étudiants ici, ils ont le visa de F1 Student. Alors, si nous arrivons à avoir ces statuts, ils auront facilement à appliquer pour le Work Permit.
Les statuts de protection temporaire que vous demandez, ça sera pour 18 mois, si je comprends bien. Et après les 18 mois, qu'est-ce qui va arriver?
Après les 18 mois, il y a toujours moyen de renouveler ces statuts-là. Donc, on vous donne une durée de 18 mois. Alors, après ces 18 mois, on va réappliquer encore pour voir si nous sommes toujours, on peut toujours être qualifié. Donc, c'est un statut, ça vous donne pas accès pour obtenir la green card, mais après 18 mois, on va accéder à renouveler.
Mais qui sont concernés par ces statuts spéciaux de protection que vous demandez?
C'est tout le Congolais ici vivant aux États-Unis qui ont des problèmes d'immigration.
Donc, et tous les États?
Tous les États. C'est pas seulement ici dans le DMV, mais c'est partout dans toute l'étendue, dans tous les États ici aux États-Unis.
Combien de Congolais sont concernés qui ne sont pas légaux, qui n'ont pas de documents ici aux États-Unis?
En tout cas, nous sommes très, 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 très nombreux de Congolais en bénéficieront de ces statuts. Parce que, ça nous protège même si vous avez problème d'immigration, surtout la déportation. Nous tous qui nous craignons la déportation, les familles vont se diviser. Donc, nous sommes à peu près, si je comprends bien, plus de 10 000 Congolais ici aux États-Unis. Donc, ce sera vraiment une chose très bien.
L'immigration est un des sujets importants maintenant, pendant qu'on est en pré-campagne électorale. On sait qu'il y a un des candidats qui menace d'expulser ces migrants qui sont illégaux. Est-ce que c'est pour cela que vous faites cette demande?
Non, c'est pas pour cela. Nous avions commencé cette campagne depuis très longtemps. C'est pas seulement pour aujourd'hui.
Claude Kamana, président de la communauté congolaise aux États-Unis. Au Mali, les autorités militaires ont annoncé la suspension des activités des partis politiques et des associations par un décret du colonel Goïta lors du Conseil des ministres. Ce matin, c'était hier matin, la haute autorité de la communication a ordonné à tous les médias, y compris radio, télévision, journaux imprimés et en ligne, de cesser toute couverture des activités politiques des partis et associations à caractère politique. Pour une réaction, Claire Morin-Gibourg a joint le directeur de publication de La Voix du Mali, Tiambend Guimbayel.
C'est une surprise, mais c'est une suite logique parce que le communiqué qui est interdit aux médias de couvrir les activités des partis politiques émane de la haute autorité de l'audiovisuel. Et ça, c'est en application d'un décret signé par les autorités de la transition.
Est-ce que l'interdiction, la suspension des activités de tout parti politique, même des associations, est décidée hier soir? Est-ce que ça a été une grosse surprise pour vous?
Oui et non en même temps, parce que ça, c'était un peu attendu. C'est la suite logique. Il faut interroger un peu le passé récent. Cette suspension émane de quoi? Ça émane du débat délétère et difficile que les partis politiques ont eu à engager autour du décret fixant la fin de la transition le 26 mars dernier. Ce décret a fait l'objet d'une rencontre de plusieurs partis, une déclaration, et il était même envisagé de continuer de discuter de la question et d'aller même manifester autour de cette activité. Alors, cela va de soi que les autorités de la transition vont juger ce acte comme étant contre-productif ou contre les intérêts qu'ils ont posés par rapport à l'État malien aujourd'hui. Parce qu'ils se projettent de travailler sur un dialogue intermalien. Si les partis politiques se saisissaient de la question pour discuter de la fin de la transition, ça va bien sûr découler, ça va changer la tension de l'opinion publique. Sur cet aspect-là, au-delà de cet aspect, je crois que les partis aussi sont dans leur plein droit de vouloir engager une discussion politique pour éventuellement se retrouver avec la transition pour fixer un calendrier. Je crois que de deux côtés, les deux partis se renvoient la balle, mais puisque les autorités sont investies dans les affaires, aujourd'hui, ils sont appelés à prendre des décisions, on attend le retour des partis.
Alors, ces décisions interviennent alors que les militaires avaient promis de céder d'ici au 26 mars, le pouvoir aux élus. Qu'en est-il de la transition?
Là, c'est un couteau à double tranchant et une question difficile à répondre parce que les militaires certainement se disent, comme ils avancent comme argument, que ce décret a été pris sous injonction dans le cadre de la discussion avec la CEDEAO. Mais tout de même, c'est un décret malien qui a été pris pour signer la fin de la transition. Quoi qu'il en vienne, il est important et donc très très diligent de discuter de la durée de cette transition et ensemble et de dialoguer autour de ça. J'espère que le dialogue intermalien se pensera sur cette question-là et va donner un deadline par rapport à cette transition.
Tiambel Gimbayara, directeur de publication de La Voix du Mali.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
La plaine rizicole de la vallée du Kou, près de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, a longtemps été un pilier crucial de la sécurité alimentaire. De nombreuses personnes déplacées cherchant refuge en raison de l'insécurité s'y sont installées. Cependant, ces périmètres de culture du riz sont aujourd'hui menacés de disparition. Reportage à Bobo-Dioulasso de Alidou Ouedraogo.
Située dans la commune rurale de Bama, à 25 km de Bobo-Dioulasso, la plaine aménagée de la vallée du Kou est un pôle de croissance agricole qui date de la fin des années 60. Ici, de nombreuses personnes déplacées y gagnent dignement leur vie à travers diverses activités. Aminata Niampa a quitté le Lorum au nord il y a 3 ans. Refusant de mendier, elle s'est retrouvée ici à la vallée du Kou.
Nous aidons à cultiver, désherber et étuver les riz et on nous paye. À la fin, on nous donne aussi du riz. Nous gagnons mieux notre vie.
Madeleine Diré travaille dans la plaine. Elle a aussi une parcelle où elle pratique l'agriculture irriguée.
Je cultive la patate, le gombo et le riz. J'ai 5 enfants. Et tout le monde vit de ça.
Ces personnes déplacées sont un pilier dans la culture du riz dans la vallée, reconnaît Zakaria Ouedraogo, le secrétaire général de l'Union des coopératives rizicoles de Bama.
Nous sommes contents parce que si ce travail n'était pas là, les coûts de nos prestations allaient être très élevés. Mais leur présence nous aide beaucoup dans la plaine car ils font beaucoup de travaux. Même en période de saison sèche, dans la culture de la patate, ils nous aident. Donc leur présence nous aide énormément.
Après près de 6 décennies d'exploitation, de nombreux problèmes compromettent l'avenir de la plaine. En plus des terres qui s'appauvrissent, il y a l'occupation de la source d'eau qui arrose la plaine par la nationale de l'eau. Une situation que dénoncent les riverains, nous dit Zakaria Ouedraogo.
De notre source d'approvisionnement en eau jusqu'à la plaine, cela vaut 40 km. Dans cette source sont installées également les stations de pompage de l'ONEA qui ravitaillent la ville de Bobo. De plus, les gens sont installés de part et d'autre de cette source pour tirer l'eau.
Le docteur Delphine Ouattara, chef de programme riz et riziculture du Burkina, liste les autres difficultés pour la vallée du Kou.
On assiste à des pratiques aussi et de la part des producteurs qui ne sont pas tolérantes dans la plaine, et notamment et d'autres cultures ou bien même la fabrication des briques au sein de la plaine. Toutes ces pratiques-là appauvrissent la plaine. Mais malgré tout, nous sommes en train de mettre les bouchées doubles pour que cette plaine-là puisse être revitalisée et répondre à la production de la culture du riz.
Avec une production de 1200 tonnes par an, la plaine de la vallée du Kou génère 1382 emplois directs. Alidou Ouedraogo, de retour de la vallée du Kou pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Le port de Baltimore, jadis animé, est maintenant calme suite à l'effondrement récent du pont Francis Scott Key et à la fermeture partielle d'une grande partie de ce port dans le Maryland, ici aux États-Unis. Cela a des répercussions importantes sur le transport maritime international, comme l'ont souligné des professionnels du secteur lors d'entretiens avec Sims Lumami et Nani Tetalani. Ce reportage examine les impacts humains de la crise, notamment les pertes de revenus et les défis logistiques dans le transport maritime régional.
Debout au milieu du silence qui recouvre désormais ce qui était autrefois le port animé de Baltimore, l'impact de l'effondrement du pont est palpable. Pour les exportateurs qui ont longtemps compté sur cette artère pour transporter des marchandises à travers les continents, notamment en Afrique, la fermeture du port est un coup dur pour leur efficacité opérationnelle et leur rentabilité.
Une fois que l'accident s'est produit, cela a été presque immédiat. Le lendemain, les chargements ont été annulés parce qu'ils ne pouvaient accéder au port et à tous les services qu'ils avaient l'intention de fournir. Beaucoup d'entreprises ont annulé et nous ont appelés pour nous dire qu'ils ne pouvaient pas venir chercher les chargements. Ils ne pouvaient pas faire cela. Ils ne pouvaient pas entrer. À partir de là, nous avons commencé à voir nos revenus hebdomadaires diminuer. Mais les factures restent les mêmes. Vous savez ce que c'est? Parce qu'on peut simplement licencier des gens. Avant, j'avais environ 7 personnes qui travaillaient ici. Mais comme je n'ai pas reçu beaucoup d'appels, il n'y a pas de travail spécifique ou de travail à faire. En ce moment, je n'ai que 2 personnes sur le terrain avec moi.
Des entreprises locales comme TTMC, Tractor Trailer Maintenance Corps de Dzarni Pukuma ont dû immobiliser des équipements et réduire la main-d'œuvre afin de contrer l'impact des perturbations portuaires sur leurs activités quotidiennes.
En général, le lundi matin, tout le matériel est sur la route. Vous pouvez donc constater que 25 à 40% du matériel reste sur le chantier, simplement parce que les travaux n'ont pas encore été effectués.
L'effondrement des opérations portuaires a aussi entraîné une augmentation des défis logistiques, obligeant les entreprises à chercher d'autres itinéraires, mais à un coût plus élevé.
Après l'effondrement, la situation est devenue très très mauvaise. Nous n'avons pu faire aucun chargement de camions remorques. Vous savez, tout le monde se disait qu'il n'y avait rien à faire. Nous devons aller jusque New Jersey et nous dépensons beaucoup d'argent pour les péages, les diesels et tout le reste. Si le gouvernement peut nous aider d'une manière ou d'une autre, nous verrons peut-être un soulagement.
L'incertitude et la charge financière causée par les perturbations portuaires force les entreprises et les compagnies maritimes à chercher des solutions alternatives pour reprendre les opérations et restaurer encore la confiance dans le transport maritime international. Alors que le port de Baltimore s'efforce de surmonter les difficultés et de reprendre ses activités à plein régime, cela menace le gagne-pain de nombreuses personnes qui dépendent de la circulation fluide des biens et services. L'accent est désormais mis non seulement sur la reconstruction de ce qui a été perdu, mais aussi sur le renforcement de ce port de Baltimore contre les adversités futures.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Manilakis a été avec vous, Michel Claire-Joseph à la réalisation. Je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.